le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout agréable condition d'écoute du programme de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a souligné l'impérieuse nécessité pour le Conseil de sécurité de peser de tout son poids sur les initiatives de paix régionales en cours pour la résolution du conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo. La communauté humanitaire et le gouvernement congolais font appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars américains. C'est pour répondre à la crise humanitaire alarmante dans le pays. Le coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires, Bruno Lemarquis, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous commençons cette page d'actualité à Kinshasa. Le gouvernement congolais et la communauté humanitaire ont lancé mardi 20 février dernier un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars américains. C'est pour financer le plan de réponse humanitaire 2024 dans le pays. Ces fonds serviront à fournir une assistance vitale et des services de protection à 8,7 millions de personnes dont la survie dépend largement de l'aide d'urgence. Jeff Opela pour d'autres précisions.
Les coordonnateurs résidents et coordonnateurs des opérations humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis a révélé qu'en 2023, seuls 40% des fonds sur 1,6 milliard de dollars ont été trouvés. Bruno Lemarquis demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour mettre fin aux tensions armées dans l'est du pays.
C'est du point de vue des solutions politiques, de l'engagement au niveau diplomatique et aussi de l'engagement par rapport à ce que tout le monde appelle les causes profondes des conflits, que moi j'appelle les nœuds gordiens, c'est-à-dire ces nœuds inextricables et qui sont notamment l'exploitation des ressources naturelles, y compris les minerais des conflits, toute la question des flux financiers illicites, toute la question du foncier. Ça, c'est vraiment les racines de la plupart des conflits en RDC.
Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, a quant à lui exhorté la communauté internationale à envie de mettre fin à la guerre d'agression du Rwanda à travers le M23.
Que la communauté fasse tout pour que nos populations récupèrent leurs terres, qu'ils rentrent au champ, qu'ils élèvent leur bataille et que les troupes rwandaises entrent chez eux.
La représentante du corps diplomatique Lucie Tamelin a rassuré de la contribution des États-Unis et d'autres bailleurs de fonds pour répondre à cette crise humanitaire en RDC.
La situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre d'une réunion au Conseil de sécurité à New York, à l'initiative de la France. Prenant la parole à cette occasion, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a souligné l'impérieuse nécessité pour le Conseil de sécurité de peser de tout son poids sur les initiatives de paix régionale en cours pour la résolution du conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo. On l'écoute.
Il est crucial de souligner le risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échouent. Je tiens à saluer les efforts diplomatiques continus du président angolais João Lourenço et je réaffirme l'engagement total de la MONUSCO à soutenir les processus de paix de Luanda et de Nairobi. J'en appelle également vivement au Conseil de sécurité pour qu'il pèse de tout son poids sur les initiatives de paix régionales en cours et veille à ce que toutes les parties respectent le droit international, leurs engagements et œuvrent de manière constructive pour mettre fin à la crise actuelle. Bien que l'escalade du conflit à Goma et dans ses environs soit une préoccupation majeure, la situation sécuritaire dans d'autres zones du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu suscite également une profonde inquiétude pour la MONUSCO.
10 enfants ont été extirpés de l'armée sur les 73 jeunes de la dernière vague venue de Rwindi dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu et qui sont cantonnés au camp militaire de Mabango. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Beni. C'était au cours d'une séance d'identification de ces jeunes qui ont manifesté la volonté d'intégrer l'armée après s'être échappés du recrutement forcé de la rébellion du M23 dans le territoire de Rutshuru et Masisi. Certains enfants affirment avoir assisté à plusieurs scènes de tuerie de leurs parents ainsi qu'à d'autres exactions. Blaise Omakasi Inandes.
Ces 10 enfants, tous des garçons et dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, figuraient sur la liste des jeunes qui sont en attente pour la formation militaire avant leur intégration au sein de l'armée. Cet enfant âgé de 16 ans affirme s'être échappé des mains de M23 au niveau de Bushanga, dans les territoires de Masisi.
Nous étions en train d'élever des chèvres. Les M23 sont venus et ont récupéré mes amis. J'ai réussi une balle perdue à la main lorsque j'ai tenté de prendre fuite, mais ils ont exécuté mes amis avant de les enterrer.
Cet autre rescapé, venu de Mueso, s'est échappé alors que le M23 voulait les recruter des forces au niveau de leur établissement scolaire. Nous étions à l'école et les M23 sont venus. Ils ont commencé déjà à récupérer les élèves par force. C'est lorsque moi et d'autres amis nous voulons nous échapper que nous avons rencontré un groupe de rebelles. Ces derniers ont tiré sur l'un d'entre nous qui voulait s'échapper et il est mort sur le champ. Ils sont partis avec nous et nous avons passé 2 jours avant d'avoir l'occasion de nous échapper. C'est ainsi que j'ai décidé, même si je suis encore élève, je dois intégrer notre armée. D'autres jeunes venus du territoire de Rutshuru parlent des travaux forcés auxquels ils étaient soumis après leur recrutement. Ils appellent le gouvernement à s'impliquer pour rétablir la sécurité dans leur milieu d'origine. La MONUSCO, à travers sa section de la protection de l'enfant, a remis ses 10 enfants auprès d'une organisation locale partenaire de l'UNICEF pour les suivis avant leur intégration dans la communauté.
Clôturons cette page d'actualité en Ituri. Les miliciens de la CODECO et le groupe d'autodéfense ont été sensibilisés à la paix et à la cohésion sociale dans les territoires de Djougou. C'est dans le cadre d'une campagne lancée depuis la semaine dernière à Lida par les chefs coutumiers des entités Lendu et Ema avec l'appui de la MONUSCO. Selon ces derniers, l'objectif de cette démarche est de consolider la paix relative observée dans cette entité. Le gouvernement provincial a remis plus de 1000 ou à certains jeunes au cours de cette première journée pour la relance des activités agricoles. Reportage d'Isaac Mouyopé rendu par Grâce Amzati.
De nombreux jeunes des communautés locales qui avaient pris les armes contre la République ont pris part à cette séance de sensibilisation initiée par les chefs coutumiers des territoires des Djougou avec l'appui du gouvernement et de la MONUSCO. Ils sont venus des différentes localités dont Daouda, Kogba, Djiti, dans les entités Lendu et Deja, Ngle, Lona, Lodzikpa, dans les secteurs des Baema. Ces jeunes se sont engagés à ne plus commettre des violences contre les membres des deux communautés et à laisser le libre passage de la population, déclarent les chefs coutumiers. Ces hommes armés se disent également prêts à déposer les armes et reprendre leurs activités professionnelles avant de s'enrôler dans ces milices. Pour matérialiser cet engagement, le gouvernement provincial leur a remis 1000 ou pour la relance des activités agricoles. Selon les autorités coutumières, cette campagne de sensibilisation est initiée dans le but de consolider la paix relative caractérisée par la baisse des violences depuis le dernier trimestre de l'année 2023 dans les territoires des Djougou et d'ajouter que cette campagne va se poursuivre dans d'autres entités en vue d'atteindre tous les jeunes qui avaient intégré les groupes armés et qui ont pris conscience des conséquences de la guerre qui persiste depuis environ 5 ans dans cette province.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien François Papimigabo, chef de groupement de Kacheni à Kamanyola. Il parle de Conseil local de sécurité de proximité CSLP en sigle, une structure du ministère de l'Intérieur avec l'appui de la MONUSCO à Kamanyola dans le Sud Kivu. Le Conseil local de sécurité de proximité de Kamanyola a bénéficié de l'accompagnement de la MONUSCO, notamment par des ateliers de renforcement des capacités. Comment ce conseil fonctionne dans le groupement de Kacheni? François Migabo Papi nous en parle au micro de Rachel Kessé Mbangu.
Monsieur François Migabo Papi, bonjour.
Bonjour madame.
Parlez-nous de ce cadre de sécurité qu'est le Conseil local de sécurité de proximité.
Le Conseil local de sécurité de proximité, en sigle le CLSP, c'est une structure de l'État, du ministère de l'Intérieur, mais qui a été installé avec l'appui du partenaire de la MONUSCO ici chez nous à Kamagnola, mais les CLSP, c'est au niveau de la chefferie. Tandis qu'au niveau du groupement, on parle du forum du groupement qui est composé par les chefs des groupements, qui est le président, également la police, la DGM, l'ANR, également les parquets aussi fait partie, et la société civile joue aussi un rôle du secrétariat. Donc, c'est une structure qui a été installée avec l'appui de la MONUSCO.
Comment avez-vous été accompagné pour le bon fonctionnement de ce cadre par la MONUSCO?
Nous avons été accompagnés par la MONUSCO via le ministère de l'Intérieur en nous renforçant surtout en capacité. Mais également, vous savez, il existe un outil très important aux autorités territoriales décentralisées qui est le guide à l'usage des autorités territoriales. Il y a des détails qui montrent les attributions de tout un chacun. Donc, chaque autorité connaît déjà ses attributions. Avec cet appui, la MONUSCO nous a renforcé capacité. Après avoir été renforcé en capacité, ils nous ont doté aussi de cet outil-là. Donc, chaque autorité qui était concernée avait eu cet outil-là. Et à part ça, on avait eu autant des ateliers, autant de formations, toujours appuyées par la MONUSCO. Il y a d'autres ateliers qui touchaient sur la sécurité pour améliorer aussi la capacité dans la zone. Et c'est là toujours en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, avec l'appui de la MONUSCO.
Parlez-nous concrètement de comment vous faites pour maintenir la sécurité dans votre entité à travers ce conseil local de sécurité de proximité.
Madame, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la zone, c'est notre obligation de pouvoir convoquer urgemment, parce que la loi prévoit que l'on puisse se rencontrer une fois le mois, mais au vu des urgences, quelquefois on se rencontre même quatre fois le mois. Donc s'il y a des soucis dans l'entité, nous devons nous réunir urgemment et voir comment trouver des solutions aux problèmes qui touchent surtout sur la sécurité. Et ce n'est pas seulement la sécurité, mais chaque problème qui touche sur nos communautés, par exemple les conflits entre éleveurs et agriculteurs, par exemple les conflits entre les différentes communautés, comme nous sommes dans une entité purement cosmopolite où il y a autant des ethnies, autant de communautés. Donc nous nous rencontrons et ensemble nous trouvons des solutions. Comme tantôt, c'est que j'ai dit aussi que la société civile fait partie aussi. Donc ensemble, on invite les parties concernées et on trouve des solutions à l'amiable, sans pour autant aller aux instances judiciaires par exemple.
Comment comptez-vous pérenniser les acquis de la MONUSCO, de votre collaboration avec la MONUSCO, surtout que la MONUSCO va se retirer, va se désengager de la province du Sud Kivu?
Oui, madame, je sais que la MONUSCO est en train de nous quitter sans le vouloir, mais c'est arrivé. Mais cela ne va pas aussi nous décourager, nous allons aussi par nous. Petit moyen pour renforcer encore de plus la sécurité, parce que vous savez, la sécurité, c'est une affaire de tous. Donc, nous allons inviter tous les leaders de notre entité de pouvoir s'approprier surtout la sécurité, également les chefs des avenirs, les chefs des villages, chacun en ce qui les concerne, de pouvoir faire des alertes lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la zone. Il y a des numéros verts que la population ou que les gens peuvent appeler sans pour autant utiliser des unités. Et cela va aider d'autant plus les agents qui sont chargés de la sécurité. Même si la MONUSCO était là, bien sûr, on peut avoir autant d'éléments des FARDC, autant d'éléments de la police ou de la DGM ou de l'ANR, mais sans l'appui de la population, ces services-là ne peuvent rien faire. Donc, nous continuerons toujours à demander un appui vraiment à la population de pouvoir accompagner ces services ayant dans leur attribution la sécurité.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
De remplir son mandat de protection des civils et de permettre aux personnes déplacées, notamment des femmes, des enfants ainsi que des vieillards, la force de la MONUSCO a établi un périmètre de sécurité près de sa base à Kichanga. C'est en vue de protéger les 25 000 civils qui cherchent refuge en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Elle a permis l'acheminement d'aide médicale et l'approvisionnement en eau potable aux déplacés. Enfin, un axe sécurisé a été défini dans la zone générale Mueso-Kachiro pour permettre aux personnes personnes déplacées de se rendre au champ de déplacés en toute sécurité. De son côté, le porte-parole du secrétaire général a indiqué que la MONUSCO a rencontré le coordonnateur des forces armées congolaises par ici au Nord Kivu le week-end dernier afin de coordonner une action militaire conjointe pour la défense de Sake ainsi que de Goma. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF RDC et RTL RDC travaillent ensemble en vue d'augmenter et améliorer la connectivité d'Internet dans les écoles et les communautés en RDC. L'objectif de cette collaboration est de favoriser l'apprentissage numérique avec pour conséquence l'accès continu à l'éducation et l'amélioration des résultats scolaires. Ce programme mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, permet à 20 écoles secondaires dans les provinces de Kinshasa, 10 à Kinshasa, 10 autres au Katanga, de bénéficier d'une meilleure connectivité et faciliter l'apprentissage des élèves du niveau élémentaire. Ce projet s'inscrit également dans le cadre des actions plus vastes menées par l'UNICEF pour offrir à tous les enfants des expériences d'apprentissage personnalisées, sûres et de qualité, garantir le développement de l'apprentissage et des compétences, réduire la fracture numérique et introduire des solutions novatrices et évolutives qui répondent aux enjeux éducatifs.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité le coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis. Il parle du lancement du plan de réponse humanitaire 2024 tenu mardi 20 février à Kinshasa, faisant appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars pour répondre à la crise humanitaire alarmante dans l'est du pays, ainsi que d'un planning d'action des humanitaires après le départ de la MONUSCO, et demande également au gouvernement congolais de prendre d'autres solutions politiques et un engagement diplomatique afin de donner des solutions aux causes profondes des conflits dans l'est du pays. Bruno Lemarquis s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour. Nous venons d'assister au lancement officiel du plan des réponses humanitaires exercice 2024. Qu'est-ce qu'on peut brièvement retenir de l'activité d'aujourd'hui?
Alors, ce lancement intervient au moment où il y a une dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec comme corollaire une augmentation des besoins humanitaires. C'est dû à l'aggravation ou à la résurgence de certains conflits. Cette crise n'est pas nouvelle, elle dure depuis 30 ans. C'est une des crises les plus graves au monde, les plus complexes au monde, les plus négligées au monde. Mais cette année, c'est encore plus que la normale qui est anormale. Je prends juste l'exemple des derniers jours autour de la ville de Sake. Il y a eu 135 000 personnes qui ont dû fuir les combats pour se diriger vers la ville de Goma, autour de laquelle il y a déjà des centaines de milliers de déplacés. Donc on atteint maintenant plus de 6,7 millions de personnes déplacées internes en République démocratique du Congo, qui est le deuxième plus grand chiffre en Afrique après le Soudan. La situation est vraiment dégradée au point de vue en termes de déplacement, en termes d'épidémie, puisque tous les déplacements ont également des conséquences, des incidents de protection. Il y a une augmentation très forte des violences basées sur le genre, des violences sexuelles. Les chiffres que nous avons, qui ne représentent qu'une fraction de la réalité, ça a été 110 000 cas de violences basées sur le genre en 2023. Derrière chaque nombre, il y a une femme, il y a une fille. La situation de la sécurité alimentaire est également très préoccupante, etc., etc. Donc la situation est vraiment, vraiment grave, ce qui fait que les chiffres du plan que nous avons lancé aujourd'hui, c'est le montant le plus élevé d'un plan humanitaire pour la RDC jamais lancé. 2,6 milliards de dollars.
Monsieur Bruno Lemarquis, vous lancez ces plans de réponse 2024 en cette période qui coïncide avec les départs de la MONUSCO. Mais comment comptez-vous vous y prendre sans la MONUSCO?
Alors la MONUSCO a dans sa génétique, c'est sa raison d'être, la protection des civils. Et également, la MONUSCO a également énormément de moyens sécuritaires, de moyens logistiques, etc. Donc, la présence de la MONUSCO facilitait le travail des humanitaires, notamment en termes d'accès. Maintenant que le départ graduel, progressif, organisé de la MONUSCO, un départ accéléré mais non précipité, comme on dit, il faut que tous les acteurs humanitaires se préparent. On doit se préparer, on doit s'adapter. Il y a énormément de pays dans le monde où il y a des crises humanitaires. au Yémen, en Somalie, en Éthiopie, en Afghanistan, il n'y a pas de mission de maintien de la paix. Donc, et nos collègues humanitaires travaillent. Ils ont trouvé des solutions. Ils travaillent beaucoup avec les acteurs locaux, mais ils ont aussi trouvé des solutions en termes de sécurité, sécurité du personnel, en termes d'aviation, etc. Donc on travaille sur tous ces dossiers. Le coût de l'opération va sûrement augmenter, puisque tout ça aura un coût, donc c'est un coût additionnel pour les bailleurs de fonds. Mais mon message régulièrement aux acteurs humanitaires, c'est qu'il faut apprendre à se sevrer, c'est le sevrage. Et il faut s'adapter.
En face de la gravité de cette situation humanitaire en République démocratique du Congo, qu'entendez-vous des bailleurs de fonds pour répondre efficacement à cette crise humanitaire alarmante en RDC qui dure plus longtemps?
Alors, d'abord sur le plan, il fait partie des 10 plus gros plans de réponse humanitaire au monde. Il est le 8e en montant, mais il est le plan le plus priorisé. On a fait le meilleur travail de priorisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment ciblé les personnes les plus vulnérables, qui sont au nombre de 8,7 millions. Aux bailleurs de fonds, nous demandons leur plein soutien pour le financement de ce plan humanitaire. Il y a énormément de crises dans le monde en ce moment, comme vous le savez, et il y a énormément de compétition sur les ressources. Donc on a vu une diminution de l'appui au plan de la RDC entre 2022 et 2023. On espère que cette diminution va cesser et que les contributions vont continuer à augmenter. On travaille de manière très très proche avec eux. L'an dernier, le plan n'avait été financé qu'à hauteur de 40%. Donc on espère avoir un meilleur pourcentage cette année. Mais l'autre demande, bien sûr, c'est du point de vue des solutions politiques, de l'engagement au niveau diplomatique et aussi de l'engagement par rapport à ce que tout le monde appelle les causes profondes des conflits, que moi j'appelle les nœuds gordiens, c'est-à-dire ces nœuds inextricables et qui sont notamment l'exploitation des ressources naturelles, y compris les minerais des conflits, toute la question des flux financiers illicites, toute la question du foncier. Ça, c'est vraiment les racines de la plupart des conflits en RDC. Donc, solution diplomatique, solution politique, et aussi appui au gouvernement de la RDC et à d'autres partenaires pour travailler sur le fond et sur la durée, sur les causes profondes des conflits.
Monsieur Bruno Le Marquis, je rappelle que vous êtes coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo. Merci.
Direction le Nord Kivu, 30 soldats des FARDC ont débuté depuis mardi 20 février une formation sur le combat de jungle dans la ville de Beni. La formation est assurée par les casques bleus brésiliens du contingent de la MONUSCO spécialisé en la matière. Pendant 3 semaines, les militaires congolais apprennent les techniques et pratiques de combat de jungle en vue de mieux s'adapter à la lutte contre les ADF dans la région de Beni et de l'Ituri. Les soldats de la MONUSCO, le chef de la MONUSCO Beni, Soussaya Obat, s'est adressé aux soldats congolais en ce terme.
Et pour nous, quand on parle de Brésil, qu'est-ce que ça vient en tête? C'est le jungle Amazon, qui est le jungle plus grand au monde. Et c'est une jungle où, si on parle de formation, d'intervention dans les jungles, je crois que c'est le meilleur endroit de faire cette formation. Et nous sommes contents d'avoir nos collègues de Brésil qui sont ici. Ils sont nés là-bas. Ils connaissent très bien les jungles. Et vous aussi, vous êtes dans les jungles de Beni. Ici, c'est une pleine forêt. Et comme on savait, l'ennemi que vous êtes en train de confronter opère dans les jungles. Comme ça, si vous pouvez échanger avec nos amis de Brésil, vous pouvez quand même gagner quelques tactiques dans cette lutte contre les ADF dans les jungles. Comme ça, pour nous, la MONUSCO, c'est une grande joie. Et comme vous le savez, les FADC, FIB, nous travaillons ensemble.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Et quel serait le sort des milliers de déplacés dont la survie dépend dans la plupart des cas des bases de la MONUSCO après son départ? Est-ce qu'il y a une stratégie, il y a une suggestion ou quelque chose qui est prévu pour leur protection? Madame Bintou Keïta a répondu à cette interrogation. C'était lors d'une conférence de presse conjointe entre la chef de la MONUSCO et le gouvernement congolais à Kinshasa. Suivez.
La situation des personnes déplacées internes. Nous en avons presque maintenant 7 millions de personnes déplacées internes, dont si on regarde l'Est, c'est à peu près 5,5 si je ne me trompe. Hein, je regarde sous contrôle de mes adjoints. Et là, je crois que si le lieu, dans la volonté des bonnes résolutions de début d'année, de demander à ce que tous les groupes armés, mais vraiment tous les groupes armés, arrêtent et déposent les armes. Il y a le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation qui existe. Et je pense que l'accélération de la mise en œuvre aussi de ce programme, en dehors du théâtre qui est celui du Nord Kivu, sera tout aussi important pour améliorer les conditions, pas seulement en termes de prise en charge humanitaire, mais de faire en sorte que l'aspiration de ces personnes déplacées, c'est de pouvoir retourner chez eux, chez elles. Et ça, ça ne peut se faire que s'il y a la paix. Et je ne pense pas que c'est un bon narratif pour la RDC d'avoir ce nombre absolument faramineux.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence le 1er mars, la journée zéro discrimination, et le 3 mars, la journée mondiale de la vie et sauvage. C'est la fin de cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci également à Pierre Diassinois qui a assuré la coordination technique. Je suis Babin Pongomassimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Jeff Opela. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.